Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ça sent quasiment la dinde, ça sent en tout cas le sapin de Noël, parce qu'on est dans le temps des fêtes, mesdames, messieurs, on est à très peu de temps des célébrations de Noël et du jour de l'an, de surcroît. Sébastien Bouchy qui est avec moi pour cette dernière émission en 2024. Sébastien Bouchy, salut.
Salut Simon, est-ce que c'est de la dinde que tu manges à Noël, Simon, justement?
Je suis pas tellement le type dinde. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Je trouve que c'est de l'ouvrage un petit peu de faire cuire une dinde pour Noël. Je sais pas, mais il me semble que c'est long un peu. Tu sais, quand t'as une grosse dinde à part de ça, là, c'est une couple d'heures. Faire des sandwichs, faire des salades, des affaires comme ça, il me semble que ça va un petit peu plus vite.
Non, mais la dinde, moi, c'est un de mes repas préférés. Puis je me dis, dinde de Noël, me semble c'est un incontournable.
C'est vrai, mais sais-tu pourquoi? C'est que à la maison, chez nous, c'est moi qui cuisine à peu près, je dirais, les trois quarts des repas. Du lundi au vendredi, à tout le moins, au moins un souper dans la fin de semaine. Des fois, ma femme fait un souper. C'est pas qu'elle cuisine mal, mais c'est moi, plus souvent qu'autrement, qui est au fourneau. Ça fait que quand arrive Noël ou quand arrivent les grosses fêtes comme ça, bah, tu sais, que t'as reçu de la visite ou encore t'es chez le... Ça te tente pas nécessairement, tu sais, de perdre ta demi-journée pour faire à manger. Ça fait que j'aime ça dans ce temps-là, faire les affaires un peu plus simples. Bon. C'est donc la dernière de l'année. C'est donc une édition un peu spéciale du temps des fêtes parce qu'on va entendre tantôt, entre autres, l'histoire du sapin de Noël. Tu vas nous parler de ça tantôt, c'est vrai, hein?
Oui, on va faire l'histoire du sapin de Noël. On va parler des traditions, des Noëls d'autrefois, toutes sortes de choses concernant Noël.
J'aurai aussi un peu plus tard dans l'émission... En fait, pour conclure cette émission-ci, des traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde, imaginez-vous donc. Et puis, il faut vous dire qu'on va réentendre au cours de cette émission-ci quelques-unes des meilleures entrevues qu'on a réalisées au cours de la saison automnale. On va d'abord écouter tantôt, dans le deuxième bloc, une petite portion de l'entrevue qu'on avait réalisée avec Marc Poirier. Marc, qui est journaliste et chroniqueur historique et qui nous avait accordé au mois de septembre dernier une entrevue dans laquelle il nous avait appris pas mal de choses sur la construction de la route transcanadienne.
On va entendre aussi Marianne Despelteau, qui sera là, excellente journaliste, qui était vraiment intéressante. Elle, on l'a reçue cet automne, puis elle est venue nous partager des choses que les gens ignorent parfois du journalisme, mais qu'elle aimerait que les gens connaissent. Alors, manquez pas ce bout d'entrevue avec Marianne Despelteau également.
Puis dans le troisième bloc, on va entendre Jean-Marc Dufresne. C'était bon ça également comme entrevue. Il est du journal Agricom dans l'Est ontarien et il était venu nous parler en septembre dernier des déchets agricoles dont on sert pour faire, je sais pas si vous étiez là pour cette entrevue-là, mais pour faire des biocarburants. Alors, on va réécouter un segment de cette entrevue-là dans le troisième bloc de l'émission.
Oui, puis c'est un petit peu dans le même style, ben on va dire, hein, parce qu'on avait parlé de compost avec Monsieur Carotte, donc Mario Doiron. On réentendra aussi un extrait de cette entrevue qui nous avait expliqué au mois de novembre comment préparer un bon compost pour notre jardinage et toutes sortes de choses pour lesquelles c'est tellement important. Donc, Mario Doiron.
Et puis, comme je l'ai dit tantôt, on va conclure avec les Noëls d'autrefois et puis des traditions. On va aller se promener un petit peu à travers le monde. On va se prendre un petit billet d'avion puis on va aller faire un tour de la planète pour découvrir des traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde. Parce que c'est pas partout pareil à travers le monde. Les gens ne fêtent pas nécessairement Noël de la même façon. Ça peut avoir des liens des fois avec la religion, comme chez nous, hein, c'est le christianisme. Je veux dire, Noël, c'est une fête chrétienne. Mais ailleurs dans le monde, ça arrive des fois qu'on fête Noël, même si le christianisme est pas forcément enraciné dans la culture, puis vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même très, très intéressantes. Je pense, entre autres, au Japon, là. Ça risque de vous surprendre un petit peu.
OK, Noël japonais.
Ouais, Noël japonais, allez voir ça. Toi, tu veux nous parler de l'histoire du sapin de Noël.
Mais oui, on est rendu des presque professionnels, des historiens, là. Ben, des histoires.
C'est vrai, hein?
On est allé vraiment loin dans l'histoire, puis là, tant qu'arrivé au temps des fêtes, sais-tu d'où ça vient, le sapin de Noël, c'est vieux de combien de temps? C'est à quel âge, cette histoire de sapin?
Moi, je dirais que c'est plus que des décennies, à tout le moins. C'est certainement des siècles, probablement quelque chose comme 4-5 siècles. Ça doit dater à peu près des années, je veux dire, 14 ou 1500.
Ouais, ben, si je te parlais de millénaires...
Hein? Ah ouais, hein? Ah ouais, hein?
C'est okay. Pas si mal. Oui, mais en fait, c'était pas l'arbre tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Ça fait un bail. Il y avait déjà un arbre. C'était l'épicéa, l'arbre de l'enfantement, en fait, qui est le jour du 24 décembre. On considérait ce jour-là comme la renaissance du soleil. Et puis, il y avait déjà un arbre associé à ça. Les Celtes aussi avaient adopté un calendrier basé sur des cycles lunaires. À chaque mois lunaire était associé à un arbre. Et puis, l'épicéa a été celui du 24 décembre. Donc, il y avait quand même un arbre depuis des millénaires qui est associé à la veille de Noël. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Et puis, si on va en 354, l'année 354, l'Église avait institué la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre et pour rivaliser avec la fête païenne. Donc, initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité. Mais on raconte qu'il y aurait un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, qui lui voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en a fait abattre un. Puis en tombant, l'arbre a écrasé tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. Le chêne a tombé, il a tout défait, sauf un jeune sapin. Puis là, à partir de là, la légende a fait son œuvre. On raconte que Saint Boniface aurait qualifié ça de ce pur hasard-là de miracle. Il a déclaré dans sa même prédication que désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Et puis, depuis, on plante en Allemagne des jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. Et si on revient plus loin, au 11e siècle, l'arbre de Noël a été garni de pommes rouges, il symbolisait l'arbre du paradis. Puis c'est au 12e siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. Puis on l'a mentionné pour la première fois comme arbre de Noël en Alsace vers 1521. Donc voilà. Puis au 14e siècle, les décorations, ben là, à ce temps-là, c'était encore des pommes. Il y avait des petits bonbons, des confiseries, des petits gâteaux. Puis à la même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, qui est le symbole de l'étoile de Bethléem, a commencé à se répandre, ça, dans les années là 1500. Et c'est les protestants, en 1560, qui ont développé la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Quand même, hein?
OK, je pensais, j'étais convaincu que le sapin de Noël, c'était quelque chose qui était rattaché, somme toute, à la religion catholique, mais là, tu es en train de me dire que c'est pas ça du tout.
C'était
c'est
païen tout à fait au début.
Ah ouais, hein, OK.
Oui. Puis au 17e et 18e siècle sont apparus les premiers sapins illuminés. Hein, faut monter au-dessus des années 1600 pour ça. Puis on utilisait des coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles il y avait des mèches qui flottaient ou des chandelles souples nouées autour des branches. On voit le danger. Les gens savent pas, mais on se voit la face, là. J'ai vu.
Ouais, c'est ça. Je suis en train de m'imaginer un arbre rempli avec des affaires comme celle-là, de l'huile bouillante avec des espèces de mèches qui sont allumées à l'intérieur. Puis tu sais, un sapin, au début, c'est pas pire, là. Mais après une couple de semaines, quand c'est dans la maison, ça commence un peu à dessécher, là, tu sais. À moins, évidemment, que tu le conserves vraiment très, très bien. Mais wow, le risque d'incendie.
Ah oui, puis il n'y avait pas d'assurance pour le feu dans ces années-là.
Oh, OK, quand même. C'est ce qu'on appelle jouer avec le feu, littéralement, là, c'est ça.
Hey, mais les immigrés d'Alsace-Lorraine ont fait connaître la tradition de l'arbre de Noël aux Français. C'est vraiment eux qui l'ont amené là. Puis, au milieu du 19e siècle, le sapin du temps des fêtes s'est imposé dans la population européenne, puis de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, milieu du 18e, hein, c'est dans les années 1700. Puis, si on se rend encore plus loin, en 1848, il y a Albert de Saxe-Cobourg-Gotha qui a convoqué le magazine de Illustrated London News. Puis, il a portraituré la famille royale de part et d'autre d'un sapin avec des bonbonnières, des petites chandelles dedans colorées puis des petits cadeaux. Puis, c'est là, cette illustration-là qui a été la première page du magazine. Ça a lancé la mode du sapin de Noël qui a gagné peu à peu le monde entier. Et l'image a été copiée 2 ans plus tard dans le Goody's Ladies Book à New York. La publication a contribué alors à amener la tradition aux États-Unis aussi à ce moment-là. Mais chose certaine, c'est seulement au 20e siècle que la tradition va s'étendre à l'ensemble de la population. Même dans les années 1920, il y avait seulement 1 ou 2 familles sur 5 qui mettaient des sapins de Noël dans la demeure. Et c'est seulement entre les deux guerres, durant le fameux temps d'une paix, que la coutume s'est répandue dans toutes les familles. Donc, c'est vraiment au 20e siècle là, que c'est devenu très, très populaire. Et les décorations aussi, ça a évolué. Hein. À partir de 1917, les compagnies d'assurance vont conseiller, parce que là, il y en avait.
Il y avait encore du monde qui mettait des chandelles pour de vrai, c'est
ouais.
ça?
Mais ils ont conseillé d'abandonner l'illumination du sapin avec des chandelles, les compagnies d'assurance, et de les remplacer par des guirlandes électriques qui venaient juste de faire leur apparition. Donc, en 1917, là, on a trouvé le moyen d'avoir des guirlandes électriques. Bon, quelle belle invention. Puis aujourd'hui, ben, le sapin de Noël, partout dans le monde, il y en a. Puis on va en parler dans le dernier bloc de différentes traditions de Noël célébrées ailleurs. Mais dans les pays sans tradition chrétienne, comme tu le disais, comme la Chine, le Japon, certains pays d'Afrique, là, on a des sapins quand même. Alors, voilà pour ce petit tour de piste du sapin de Noël.
J'ai encore l'image en tête là, des chandelles plantées au milieu de l'arbre avec des jeunes qui tournent alentour. Encore même à l'époque, il y avait des chats, tu sais, il y avait des chiens, des choses comme ça, hein, des animaux de compagnie qui virent autour de sapin de Noël qui est rempli de bougies. Là, franchement, pour le feu, là, on a trouvé mieux. Hein.
Il y a une certaine insouciance hein, qui planait à une époque. Puis c'est pas si loin, parce que si on recule en arrière, là, nos grands-parents ont connu ça, des chapins avec des chandelles dedans. Là.
Des chapins.
Non, avec des chandelles.
Mais tu dis que c'est en quoi, en 1917, dans ces eaux-là, là, qu'à peu près, qu'on a les compagnies d'assurance?
Les lumières électriques, ouais.
Ouais.
Okay. Ouais, ouais, les compagnies d'assurance qui ont décidé de fortement conseiller d'abandonner les chandelles dans les sapins, là.
Ben quand même, hein. Tu sais, des fois on dit les compagnies d'assurance sont là pour s'en mettre plein les poches, là, je comprends donc, là, mais tu sais, en même temps, elles sont là aussi dans une certaine mesure, en tout cas dans ce cas-là, pour nous ramener sur la voie du bon sens.
Ouais, ben c'est aussi parce que ça, ils savaient que ça allait leur coûter cher là, d'incendie, là. Ils pouvaient pas assurer ça, là, des sapins remplis de chandelles. Là.
OK, on marque un petit temps d'arrêt. C'est la première pause de l'émission. Nous allons revenir de l'autre côté avec deux segments d'entrevue. On rappelle qu'on aura l'occasion d'entendre, entre autres, Marc Poirier qui va nous parler de la construction de la route transcanadienne. Petit segment d'entrevue également avec Marianne Despelteaux. Et puis, on file comme ça pour toute l'heure entière. C'est l'émission Peut contenir des infos.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Alors, on vous rappelle que c'est une émission spéciale, en quelque sorte, à l'occasion du temps des fêtes, ou en tout cas la dernière émission de l'année. On aura l'occasion, dans ce bloc-ci, d'entendre deux partie d'entrevue qu'on a réalisée au cours de la saison automnale. On va d'abord écouter, Sébastien et vous autres, les gens qui nous écoutaient à la maison, une portion de l'entrevue qu'on avait réalisée au cours de l'automne avec Marc Poirier, c'est au mois de septembre dernier. Marc Poirier est journaliste, il est chroniqueur historique, il écrit entre autres pour Franco Presse et il était venu nous apprendre pas mal de choses sur la construction de la route transcanadienne. Alors, on va écouter ce petit segment d'entrevue-là. On va revenir dans un instant avec une autre excellente invitée qu'on avait reçue également cet automne. Alors, on commence avec cette portion d'entrevue de Marc Poirier.
Peut contenir des infos.
Pouvez-vous nous dire, M. Poirier, qu'est-ce qui a motivé la construction de cette autoroute-là au Canada? Comment est né le projet?
On a commencé à en parler au début du 20e siècle, là, avec l'arrivée, la popularité des autos. Il y avait des petits bouts d'autoroutes ou de routes qui se construisaient évidemment un peu partout, mais c'était impossible de parcourir le Canada d'un bout à l'autre, là, d'un océan à l'autre, sur une seule route et même parce qu'il y avait certains endroits dans les années 10, dans les années 20, 30, qui n'avaient pas de route. Et c'est assez intéressant, on parle de road trip. Ben justement, dans les années 10, il y a eu un road trip. En fait, c'était un concours de... Je me rappelle plus ce qui l'avait lancé, on avait mis au défi de parcourir, justement, de traverser le Canada en auto. Et puis, il y a un journaliste britannique du nom de Thomas Wilby qui, avec son chauffeur, a relevé le défi, donc est parti de Halifax, a pris de l'eau, de l'océan Atlantique dans une bouteille, puis a traversé tout le Canada jusqu'à Vancouver, jusqu'à la côte ouest, en 2 mois, si ma mémoire est bonne, oui, 2 mois. Donc, Puis, c'était vraiment le premier road trip d'un bout à l'autre du pays. Mais ce qu'on a su seulement quelques mois ou un an plus tard, quand le journaliste Wilby va écrire un livre sur son aventure, on va apprendre que qu'ils n'avaient pas pu faire tout le trajet par la route, parce que justement, il y avait des endroits où il n'y avait pas de route, notamment dans le nord-ouest de l'Ontario, où la grosse région boisée. Okay. Dans ces certaines sections de cet endroit-là, l'auto a été mise sur un bateau, un traversier, ou même sur un train. Donc, finalement, ça n'aurait pas satisfait les conditions du fameux concours, mais on l'a juste su plus tard.
OK, donc en fait, le road trip s'est transformé à certains égards en boat trip à des bains des places, autrement dit. C'est ça. Il y a eu des difficultés, outre le fait là, de ces fameux road trips un peu arrangés avec les gars des vues, si on peut dire, mais il y a eu des difficultés là, rencontrées pendant la construction. Moi, j'ai été très étonné à la lecture de votre, ou en fait de ton article, Marc, parce qu'on s'est dit tantôt qu'on allait se tutoyer. J'ai été très étonné de toutes les difficultés qu'on a rencontrées avant d'aboutir à ce projet qu'on connaît aujourd'hui, ou en fait cette route transcanadienne, telle qu'on la connaît. Ça a été quoi, entre autres, les difficultés pendant le projet?
Ben c'est ça. Il y a eu des temps. Le gouvernement fédéral avait la volonté de faire ça, mais le problème, c'est que les routes, selon la Constitution, c'est de juridiction provinciale. Donc, il fallait l'accord des provinces, de toutes les provinces, finalement, pour se lancer dans ce projet-là ambitieux. Puis juste un mot avant d'aller plus loin. On parlait des motivations. Il y avait aussi le fait que si on voulait traverser le Canada, il fallait, dans certains endroits, passer par les États-Unis. Donc, c'était une question de un peu de fierté là, canadienne de dire « il nous faut nos routes qu'on va pouvoir... » On va pouvoir traverser sans aller aux États-Unis. Donc, ça devenait un peu embarrassant. Donc, ça, c'était une des grandes motivations. En tout cas, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça. Donc, ça a pris jusqu'à 1949 pour que finalement, le fédéral se décide, ou en tout cas, convainc les provinces d'aller de l'avant et mettre de l'argent, parce que, bon, ça a pris des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc, il y a eu une entente avec les provinces, mais sauf le Québec. Donc, le Québec n'a pas voulu adhérer, c'est un peu comme la Constitution, mais 50 ans plus tôt.
Ouais, c'est ça.
Donc, les 9 provinces ont dit oui. Le Québec a dit non parce que le Québec, c'était Maurice Duplessis qui était premier ministre à ce moment-là. Et lui, il n'était pas d'accord que le fédéral allait décider des normes de construction. Donc, il y avait un différent à ce niveau-là. Donc, le Québec ils sont allés de l'avant malgré tout. Puis, c'était plus ou moins important, plus ou moins symbolique, parce qu'il y avait, à ce moment-là, déjà une route qui traversait le Québec. Donc, mais finalement, ça a pris jusqu'en 1961 et le changement de gouvernement avec Jean Lesage, où là, le Québec est finalement embarqué dans tout ça.
Merci à Marc Poirier qui était venu cet automne nous parler de la route transcanadienne. On a reçu également une autre excellente invitée, Sébastien, cet automne.
Marianne Despelteau, une jeune journaliste très prometteuse et qui d'ailleurs a gagné un prix prestigieux de journalisme à son jeune âge. Elle va nous parler de certaines choses que les gens ignorent du journalisme et qu'elle aimerait que les gens connaissent. Alors, un bel extrait de cette entrevue avec Marianne Despelteau.
Peut contenir des infos.
Selon toi, qu'est-ce qui est différent, par exemple, un journaliste qui exerce le métier dans une province qui est à majorité francophone, comme le Québec, ou comme toi, être journaliste francophone qui à couvrir l'actualité dans un milieu minoritaire, qu'est-ce qui serait différent entre les deux?
Je pense que tous les médias francophones en milieu minoritaire pourraient témoigner de ceci. Il y a une question de ressources. Il y a beaucoup de... Bon, la crise des médias frappe très fort chez les journaux francophones hors Québec. Ça, c'est une grande différence. Une autre différence, puis ça vaut pour tout ce qui est francophonie hors Québec, le fait d'être en milieu minoritaire, faut toujours se battre un petit peu plus fort. Et en journalisme, on fait attention là à ne pas être trop engagé, à ne pas être militant. Mais quand vient le temps de parler de langue française, on n'aurait pas de boulot, on n'aurait pas d'emploi s'il n'y avait pas une langue française et des institutions assez fortes à l'extérieur du Québec. Donc ça, c'est toujours difficile là, de jaucher la limite entre « je suis journaliste, je suis neutre ». D'un autre côté, le combat pour la langue française, je peux pas être un petit peu engagée. Là. Je veux dire, je peux pas ne pas être engagée du tout. Mm-hmm. On n'a pas le choix. Sinon, je veux dire, ça revient à une question très rationnelle de « je n'aurais pas de métier ». Donc ça, c'est une grande différence. Une autre différence, c'est la proximité avec le milieu qu'on traite. Là. Ça vaut surtout pour les médias locaux. Les communautés francophones en situation minoritaire, elles sont soudées, elles sont très proches. Et quand on est journaliste, on fait partie de cette communauté, probablement beaucoup plus, j'imagine, qu'au Québec. Là. Donc, ça peut être difficile parfois quand on doit faire la couverture peut-être un petit peu négative d'un ami ou d'un proche ou peut-être d'un bailleur de fonds aussi. Ça, c'est des enjeux que j'ai déjà entendus. Donc, il y a certaines différences comme ça, mais je dirais que la principale, là, je reviens là-dessus, c'est l'engagement par rapport à la francophonie de trouver ce juste équilibre entre défense de la langue française, mais en même temps, on la couvre médiatiquement, on la couvre de manière neutre.
Vous marchez souvent, pour ainsi dire, sur un mince fil de fer. Là. La ligne est assez ténue entre, comme tu le disais tantôt, tomber peut-être un peu, pas dans la partisanerie, mais dans un certain parti pris par rapport au fait que vous couvrez, comme tu le disais tantôt, la francophonie canadienne. Tu dis, bon, je peux-tu rentrer là-dedans? Puis tout ça. Mais les gens ont une drôle de perception actuellement sur le métier de journaliste. Hein? On le lit dans les médias sociaux. Vous vous faites rentrer dedans. Je dirais pas que c'est continuel, mais il faut juste aller faire un tour sur X, là, sur Twitter, pour s'en rendre compte que la job de journaliste, c'est pas facile. Qu'est-ce que les gens ignorent de ce métier-là, de journaliste, puis que t'aimerais qu'ils sachent?
Je pense qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à notre financement. Quand on parle de CBC, Radio-Canada... On pourrait peut-être reprocher la même chose à Franco-Presse. Là, essentiellement, on est financé par Patrimoine canadien.
C'est ça.
C'est pas parce qu'on est financé par le gouvernement ou en grande partie par le gouvernement qu'on est pro-parti au pouvoir.
C'est ça.
Donc ça, c'est une distinction très importante à faire. Le gouvernement n'est pas dans les salles de rédaction. En principe, ne l'est pas. Quelque chose d'autre, c'est probablement l'essence du métier de journaliste. C'est que quand on couvre un sujet, c'est pas parce que je choisis de parler, par exemple, d'une initiative, je ne sais pas, du gouvernement libéral, que je suis pro-gouvernement libéral. Le choix du sujet ne trahit pas forcément une position. Puis ça, je pense qu'il y a une grande distinction à faire. Là. Ça a été un enjeu particulièrement pour l'immigration, parce que j'ai beaucoup couvert l'immigration dans les derniers mois. Mais moi, je me posais la question à un moment donné, je me disais, mais est-ce que la manière dont j'écris, peut-être juste le choix des angles, est-ce que tout ça trahit une certaine partisanerie? C'est à moi de me remettre en question. Le public, normalement, devrait pouvoir nous faire confiance. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, oui, faire confiance aux journalistes. On fait un travail très conscient. En tout cas, on devrait faire un travail très conscient quand on est en entrevue, quand on rédige nos textes, quand on est à la radio, peu importe, de faire ce travail d'objectivité. Puis nous, on doit se remettre en question, encore une fois. La population, dans un monde idéal, ne devrait pas nous remettre en question, devrait nous lire et nous faire confiance. Donc, c'est peut-être... Le public n'est pas ignorant face au métier du journaliste, puis je pense que le public doit demeurer critique. Ça va nous permettre de nous remettre en question, justement, là, si le public est critique par rapport à nous. Mais je pense qu'il faut ramener cette confiance-là, puis ça passe peut-être aussi par l'initiative des journalistes eux-mêmes, là, à mieux expliquer notre métier, mieux expliquer nos démarches.
En clair, vous êtes assez intelligent pour faire votre ouvrage sans qu'on soit continuellement au-dessus de votre épaule en train de vous taper dessus, là, c'est ça un peu?
Encore une fois, le fait que le public nous remette en question, c'est super, ça veut dire qu'on est en démocratie, parfait.
Ben oui.
mais oui, il faut peut-être faire un petit peu confiance aux journalistes des fois. Là.
C'est ça.
Hey, mais Marianne, si tu avais un message à envoyer, s'il y a des jeunes là, qui nous écoutent et comme toi rêveraient de faire carrière en journaliste, mais qui auraient peut-être des gros doutes, des choses, qu'est-ce que tu leur enverrais comme message?
C'est un beau métier. La raison pour laquelle je le fais, c'est un peu bête, là, mais je suis payée pour apprendre tous les jours, ce que je trouve absolument formidable. Donc, pour n'importe quel jeune qui adore être sur les bancs de l'école, qui adore apprendre des choses, parler aux gens, qui est curieux, c'est un métier vraiment extraordinaire pour ce type de personnalité. C'est un métier très rigoureux, par contre. Puis, faut pas non plus le sugarcoater, comme on dit en anglais. Faut faire preuve de beaucoup de rigueur. Ça prend, en fait, de mettre son ego de côté. Le journaliste n'est pas important, en fait. C'est la nouvelle, c'est l'histoire qu'on rapporte qui est importante. C'est les gens à qui on parle qui sont importants. Donc, faut être capable de mettre son ego de côté. Faut être capable de... je pense que ça, avec les réseaux sociaux, ça va être un sacré défi pour ma génération. Mais il faut être capable là, de se mettre de côté, de se dire « ouais, c'est pas moi qui est important ». Mais je dirais foncer. Je veux dire, c'est un beau métier. En plus, il y a un sentiment de contribution à la société que moi, je pense pas pouvoir retrouver ailleurs. Parce que ce soit un impact à court terme, là, qu'on informe tout de suite, immédiatement la population, Peut-être ça peut mener à des changements de politique publique, ne sait-on jamais. Mais l'impact peut aussi être à long terme. Parfois, il y a des dizaines d'articles que j'ai écrits qui n'ont peut-être pas eu un impact tout de suite, mais je me dis, ben, peut-être dans 20 ans, il y a un historien qui va s'en servir ou ça va servir à des travaux d'archives. Puis ce sentiment d'utilité, je pense qu'il est de très grande valeur.
Ah ben merci à nos invités qu'on a reçus cet automne, Marc Poirier, entre autres, Marianne Despelteau qui était là. Le premier nous a parlé de la route transcanadienne. La seconde, elle était là pour nous apprendre quelques affaires très intéressantes sur le métier de journaliste. Dans un tout petit instant, nous allons attaquer la troisième ligne droite de l'émission Peut contenir des infos et nous aurons le plaisir, entre autres, de recevoir Jean-Marc Dufresne puis un autre que t'aimes bien gros, Sébastien, qui était venu nous parler de compost cet automne?
Monsieur Carotte, ben oui, qui habite dans mon petit coin de pays ici, puis c'est comme ça que j'ai rencontré Mario Doiron, qui est un homme là, très calé en ce qui est matière au jardinage. Vous pourrez le constater par vous-même si vous avez manqué l'entrevue plus tôt cette année.
OK, alors on écoute ça dans un instant.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
C'est la troisième ligne droite de Peut contenir des infos. On vous rappelle que nous sommes en émission spéciale, ou à tout le moins la dernière de l'année 2024, et que nous revivons ensemble quelques-unes des entrevues ou des meilleurs moments d'entrevue qu'on a réalisés au cours de l'automne. Dans un tout petit instant, t'en as un pas pire à nous présenter, Sébastien. Ça va être bien intéressant. D'abord, on est dans une espèce de bloc thématique que j'aurais presque le goût de dire à agricole ou agriculture et tout ça, jardinage. D'abord, on va parler à Jean-Marc Dufresne. Jean-Marc Dufresne, qu'on avait reçu cet automne du journal Agricom, journal qui est situé dans l'Est ontarien. Il était venu nous parler en septembre dernier de déchets agricoles dont on se sert pour faire rien de moins que des biocarburants. Alors, on réécoute un petit segment de l'entrevue qu'on a réalisé avec lui. Puis dans un instant, Sébastien, tu nous en présentes un autre qui est quand même pas mal aussi.
Oui, Monsieur Carotte.
Peut contenir des infos.
Pourquoi on va faire, à partir de déchets agricoles, là, par exemple, de la bioénergie, des plastiques biodégradables, quelles sont les applications de ça? À quoi ça va servir?
Ben, en fait, spontanément, si tu me dis pourquoi on fait ça, je dirais pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Au fond, on parle à la base, retenons-le, on parle de déchets agricoles. Donc, des parties dont on ne se sert pas de façon active dans l'alimentation. Et ça peut être, par exemple, pensez à du maïs. Pensez dans des champs de maïs, mais c'est pas le plat au complet qu'on mange. La grande tige et tout ça, on mange pas ça. Alors, ce qui arrive avec ça, ben, une fois que c'est recueilli et que le maïs est retiré, ben, on reste prêt avec une grosse pile qui, en se décomposant, produit du CO2. Et il y a des matières là-dedans, des fois, qui sont dures à composter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais prenez juste la plure de maïs, la plure d'un épi de blé d'Inde. C'est quasiment anti-balle, cette affaire-là. Vous mettez ça dans votre compost, deux ans après, ça va être encore là, de terre, et allô! Alors, on essaie de voir de quelle façon on est capable de prendre ces matériaux-là, qui sont essentiellement des déchets, et dire, OK, est-ce que on peut les traiter, puis leur donner une deuxième vie, et aller chercher une utilisation qui va répondre à un besoin, parce qu'on a un besoin croissant de différents types d'énergie, et on veut être de moins en moins dépendant du pétrole. Et le pétrole, oui, ça fait fonctionner nos véhicules, mais c'est à la base de nos plastiques. Alors, si on arrivait à trouver une utilisation qui permet de substituer au pétrole, eh bien, on aurait une formule gagnante et c'est là-dessus qu'on travaille.
On parle de déchets agricoles ou de résidus agricoles. Tu as évoqué tout à l'heure l'idée là, du maïs ou enfin les résidus du maïs, mais techniquement, là, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit? La palette est quand même assez large, j'imagine.
Oui, en ce moment, on va faire du travail, des études de recherche sur les pailles de blé, d'avoine, l'orge, des tiges de maïs dont je vous parlais tantôt, des fractions de légumineuses qui sont non alimentaires. Non, les légumineuses, votre épouse vous a servi ou vous aimez bouffer de la luzerne, mais vous savez que c'est un plant, mais il y a une partie de ça qui est non comestible. Quand on fait pousser des champignons, le substrat, ce sur quoi le champignon pousse, souvent c'est des écorces de bois, des choses comme ça, mais c'est non comestible. Le riz sauvage. En fait, je parlais avec le gérant de projet du BIC, Michael Faba, puis il disait, il n'y a pas vraiment de produits ou de résidus particuliers qu'on va exclure. C'est seulement une question de savoir s'il est inclus dans un cadre d'une activité, de projet particulier, ce sur quoi on travaille. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des opportunités d'inclure des résidus qui ne font pas déjà partie d'une étude. Si on se rend compte, par exemple, qu'il y a des débouchés extraordinaires pour les trognons de pommes, ben on va faire quelque chose avec ça.
Mais il y a des réticences hein, quand même. Vous avez parlé à des agriculteurs qui adhèrent pas tout à fait à l'idée ou pas encore ou qui ont des réserves. Il y en a une qui voyait pas l'intérêt de se défaire de ces résidus agricoles carrément.
C'est-à-dire qu'il y a personne, et ça c'est important que le message passe bien, je pense qu'il y a personne qui est contre la vertu. Il y a personne qui est contre l'idée du progrès et de donner une valorisation autre à leurs produits. Mais dans le cas de cette agricultrice de l'Est ontarien à qui j'ai parlé, elle m'a dit « Écoute, personnellement, le type de culture que je fais produit des résidus et des déchets dont je me sers pour enrichir ma terre d'une année à l'autre. » Donc, son type de culture à elle fait qu'elle se dit « Moi, je serais pas la première à lever la main pour dire « Venez chercher mes déchets » parce que, dans le fond, mes déchets, ils me servent. » Et ça peut arriver dans certains types de culture. Mais il y a d'autres cultures, comme on l'a mentionné tantôt, où effectivement, ça devient un problème de gérer ces déchets-là et où on va applaudir la possibilité de les traiter. Il faut encore que ce soit économiquement viable, parce que si vous avez une entreprise qui produit des déchets à Cornwall et que vous devez les envoyer par camion à Sarnia, ben peut-être que ce que ça va coûter écologiquement de le transporter, ça vaut pas la peine. Alors, il reste encore beaucoup de choses à peaufiner, là, dans le processus.
Donc, en clair, quand on parle de résidus agricoles, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelque chose qui pourrit dans les champs. T'sais. On en fait la démonstration dans cet article-là. Il y en a qui se servent quand même de ces résidus-là agricoles et qui, a priori, ne voient pas nécessairement l'importance de transformer ça en bioplastique ou en bioénergie. Là. C'est ce qu'il faut comprendre.
C'est-à-dire que, c'est ça, il faut comprendre par déchets agricoles quelque chose qui n'a pas d'utilisation propre. À prime abord, à première vue, là, l'agriculteur n'en a pas usage. Quand il en a usage, ça n'est plus un déchet agricole. Dans le fond, c'est un résidu dont il se sert pour autre chose. Mais quand c'est un déchet agricole, là, c'est vraiment parce que, écoute, je peux pas vraiment rien faire avec ça. J'en ai une trop grande quantité. Ça prend trop de temps à se décomposer. C'est pas vraiment utile pour mes cultures. Et c'est avec ça qu'on essaie maintenant de donner une deuxième vie, une valeur ajoutée.
Merci Jean-Marc Dufresne de nous avoir parlé de ces déchets agricoles hein, qu'on transforme en biocarburant. Là, tu nous présentes un gars qui était venu cet automne nous parler de quelque chose d'un peu particulier, Sébastien.
Oui, Mario Doiron, qu'on appelle Monsieur Carotte dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, ici où il fait de nombreuses chroniques radio, c'est vraiment quelqu'un de réputé en matière de jardinage et il nous avait expliqué au mois de novembre comment préparer du bon compost, comment et pourquoi faire son propre compost pour votre jardinage. On écoute l'extrait.
Peut contenir des infos.
Selon vous, là, pourquoi les gens devraient le faire leur propre compost?
Ben là, c'est pour réduire les coûts. Hein. C'est parce que là, si qu'on... Puis moi, je suis pas contre aller au magasin acheter des produits qu'on a de besoin, mais si on... Moi, je suis très pour sauver de l'argent. Puis là, si qu'on produit notre propre compost, premièrement, on a une... On a un petit peu de d'autosuffisance par rapport à ce que c'est qu'on va produire. On est capable de plus produire pour pas cher. Plus, tout ce matériel-là, c'est du déchet qu'on a autour de la cour. On nettoyait notre cour, on nettoyait notre voisinage. Tu sais, là, on peut ramasser beaucoup du matériel qu'on a de besoin. Puis souvent, les gens vont nettoyer les feuilles, les mettre dans des sacs au bout du chemin. Ben, c'est bon temps d'aller le chercher parce que c'est que là, tu sais, là, comme nous autres, chez nous, j'en ramasse un 200 ou 300 ou 400 sacs de feuilles chaque automne, pas seulement pour le compost, mais aussi pour mon poulailler. C'est des matériels qui est vraiment utile puis que nous autres, on trouve ça, c'est gaspillé, là, la plupart du temps. Hein.
Ouais, vous parliez de M. Carotte, vous parliez de matières premières, les feuilles. J'imagine qu'il y a des rognures de légumes et des choses comme ça qu'on met dans le compost. Mais outre ça, qu'est-ce qui rentre là, dans la composition du compost? Le champ des possibles est quand même assez grand ou on peut pas mettre de viande là, chez soi, là, comme on le fait avec, par exemple, le compost industriel? Là.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça dépend de notre contexte. Si on est dedans un centre urbain, c'est qu'on a juste une petite cour de rien, qui a pas, c'est pas beaucoup d'espace, là, tu sais. Ben là, on veut limiter un petit peu parce que là, on veut pas nécessairement inviter des ours puis des ratons laveurs dedans notre cour. C'est ça. Mais si qu'on est là-bas dans la campagne, si qu'on a beaucoup de place, on a, comme moi chez nous, j'ai 25 harpons. Ben moi, si qu'un ours veut venir brasser mon compost, ben moi aussi, ils sont en train de m'aider, ils sont en train de brasser mon compost, moi ça me dérange pas, puis ça va pas déranger mes voisins. Mais si j'étais dans une subdivision, dans un suburb ou quelque chose comme ça, entouré de voisins, ben ça pourrait être énervant parce que si tu te lèves le matin à chercher ton journal, puis tout d'un coup tu t'es affronté avec un ours dans la cour du voisin, ça peut être énervant.
C'est sûr. Est-ce que ça prend de l'équipement spécial? Moi, si je veux faire du compost, est-ce que je dois m'équiper de quelque chose? Il y a des différents outils qui existent ou?
Non, il y a des composteurs, il y a des machines, il y a des mécanismes, il y a toutes sortes d'affaires pour nous aider vraiment. Si tu regardes ça à sa base, essentiellement, la seule chose que tu as besoin, c'est une bauche, une tarp. Tu fais ta butte de compost, tu la bâtis avec les bonnes proportions, puis vraiment, là, c'est juste, tu veux juste arrêter la pluie, trop de pluie ou trop de soleil toucher ton compost, tu veux garder un milieu humide, mais pas trop tronc. À part de ça, vraiment, c'est les organismes bénéfiques qui vivent dans la terre, ils savent déjà comment faire leur job. Si tu empiles dans ce moment de matériel, ça va devenir du compost.
Comment on fait pour avoir du compost sans que ça dégage nécessairement des odeurs? J'imagine que ça a beaucoup à voir avec les proportions dont vous parliez il y a quelques secondes.
Ben c'est ça. Là, c'est une question de ballon. Ça fait que pour avoir un bon compost, il y a deux composantes qu'on veut regarder. On a le composant qui est riche en carbone. Ça c'est des feuilles sèches, du foin, de la paille, des matériels comme ça qui étaient d'origine vivante, mais qui est desséché. Puis ensuite de ça, la deuxième composante, c'est le matériel qui est fort en azote. On appellerait ça des matériels verts. C'est comme des gens du fumier de poule ou de vache ou d'animaux de ferme. Ça pourrait être des grains de café, ça pourrait être du gazon fraîchement coupé, ça pourrait être n'importe des feuilles vertes encore. Dans ce temps-ci de l'année, il y a moins de feuilles vertes, là, tu sais. Mais essentiellement, on veut un bon ballon, 20 parties de matériel qui est riche en carbone pour une partie qui est riche en azote. Ça serait 95%, c'est du matériel sec, des feuilles, du foin, puis juste 5% qui serait du fumier.
OK.
Puis là, si on met trop de fumier, ou de la viande, ou d'autres choses comme ça, qui est très, très, très riche en azote, ben là, l'azote va dégager beaucoup de gaz, faire de la méthane, dégager de la dioxyde de carbone, puis ça va beaucoup réduire le volume aussi du compost, qui fait qu'on va gaspiller une quantité importante de ce qu'on essaie de produire. Ça fait que si on balance bien, on met une couche épaisse de feuilles, une petite couche mince de fumier, une couche épaisse de paille, une petite couche mince de gazon fraîchement coupé, puis là, on bâtit une proportion qui est vraiment bien balancée, qui ne va pas dégager des grosses senteurs, qui ne va pas dégager des gaz nocifs, puis qui ne va pas non plus réduire son volume de manière, parce qu'on veut créer un volume important pour notre jardin, tu sais.
Hey, du bon compost qui sent bon, même. Merci, M. Doiron. Ça devrait être des bons trucs. Hey, mais si moi, j'en veux pas, par contre, là, des ours, que vous dites, si l'ours vient brasser mon compost, c'est correct, mais moi, si j'en veux pas, puis je veux pas avoir, par exemple, des rats, des ratons laveurs ou des ours qui arrivent dans mon compost, est-ce qu'il y a une façon de prévenir ça?
Absolument. On veut tous utiliser le compost pour débarrasser de nos déchets de cuisine, mais c'est exactement les déchets de cuisine qui vont attirer les ours, puis les rats, puis les souris, puis toutes les choses qui pourraient être énervantes quand tu arrives à proche de ton compost au milieu de la nuit, là, tu sais. Ça fait que on peut juste faire du compost avec des choses qui sont comme naturelles de même, là, qui comme juste des feuilles, du foin, de la paille, du fumier. Ça va pas attirer les ours puis les ratons laveurs nécessairement. T'sais, là, c'est juste si qu'on dévide le fond du frigidaire, puis toutes les choses qui sont toutes moisies dans le fond du frigidaire, puis on tire ça de là-dedans, puis on dévide notre congélateur avec la vieille viande qui est toute freezer burn, là, t'sais, là, qui est toute dégueulasse. Mais si qu'on met tout ça dans le compost, ben il y a quelque chose qu'un gros appétit qui va trouver ces senteurs-là puis les amener.
Ben merci à ces deux autres invités qu'on a reçus au cours de la saison automnale, Jean-Marc Dufresne qui était là du journal Agricom, et puis Monsieur Carotte, hein, faut vraiment dire Monsieur Carotte, hein, Sébastien, c'est ça?
C'est la façon Carotte de le prononcer, avec l'accent circonflexe sur le A. Vraiment important.
Et ça, c'est en raison, comme il nous avait dit, de son accent, hein, du sud-est du Nouveau-Brunswick.
Quoi. C'est comme ça qu'il prononce, c'est des carottes.
Des carottes. Alors, Monsieur Mario Doiron, alias Monsieur Carotte, qui est venu nous parler de compost. On attaque la dernière ligne droite dans un instant et nous aurons pour vous autres, entre autres choses, des traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde. C'est peu contenir des infos. Restez avec nous.
Peut contenir des infos.
Ben, peut contenir des infos, hein. Ça tire à sa fin. C'est la dernière ligne droite de l'émission et c'est, en même temps, la dernière, non seulement ligne droite de l'émission, mais la dernière émission également de la saison 2024, parce qu'on va se retrouver au retour des fêtes pour la prochaine saison. J'avais pensé aborder dans cette ligne droite ou dans cette dernière portion de l'émission des traditions insolites pour célébrer Noël à travers le monde. Ça t'intéresse, Sébastien?
Ben oui. C'est okay. Certain. Tu m'avais dit que le Japon, c'était assez comique. J'ai hâte de voir.
Oui, ben le Japon, je vais vous apprendre ça dans un instant. Je vais d'abord vous parler de Krampus. Est-ce que tu connais Krampus?
Non, ça ne me dit rien.
Krampus, ça, c'est une tradition germanique. Krampus, c'est un monstre de Noël.
Oh, okay.
Ah, ouais, c'est spécial, hein? Et on a, tu sais, on a le Père Noël, on a les lutins et tout ça, mais dans la tradition germanique, il y a un monstre de Noël qui s'appelle Krampus. C'est un être anthropomorphe. Ça veut dire qu'il est d'apparence humaine. Il est muni, c'est un peu effrayant, il est muni de cornes et on le décrit fréquemment comme étant un être mi-chèvre, mi-démon. Il existe, là. C'est ouais. Un monstre de Noël. Donc, il est présent dans le folklore de certains pays européens comme l'Autriche, entre autres, l'Allemagne, la Hongrie et quelques autres pays de tradition germanique et tout dans ce coin-là. Là. Alors, Krampus, ce qu'il fait, lui, dans le temps des fêtes, c'est tout ce que je vous raconte, là, c'est scrupuleusement vrai, vérifié, recherché et tout ça. Je vous raconte pas de niaiserie, là, c'est très vrai. Krampus, lui, son job, c'est de punir les enfants qui se sont mal comportés.
Ah là là, ils sont fous ces Germains.
Ouais, c'est un peu le bonhomme Satan chez nous, hein. Tu connais ça, le bonhomme Satan? C'est un peu
le
ça.
Croque-mitaine.
Alors
lui,
ouais, exactement. Alors Krampus, il punit les enfants qui se sont mal comportés, alors que le Père Noël, lui, évidemment, on le sait, il récompense les enfants sages. Alors dans plusieurs pays où la légende est inscrite dans le folklore, on le dit dans les pays de tradition essentiellement germanique, quoi qu'il y en a d'autres un petit peu aussi. Alors les gens, ce qu'ils font, c'est que au début du mois de décembre, ils vont se déguiser en Krampus, littéralement. Alors ça s'écrit Krampus. Je chercherai ça sur Internet. Alors Krampus, lui, il se promène puis il effraie les enfants et il les incite à rester sages jusqu'à l'arrivée du Père Noël.
Et quand même, peut-être que ça fonctionne, peut-être que les parents l'aiment bien, Krampus.
C'est pas. Le Japon, ça c'est spécial.
Le voilà.
Le Japon. Le Japon, c'est il y a des chrétiens un peu partout à travers la planète, mais le Japon, c'est pas pertinemment ou particulièrement reconnu comme un pays de tradition chrétienne. Pourtant, c'est la tradition chez de nombreuses familles au Japon de célébrer Noël en mangeant du poulet frit Kentucky.
Ah, oh, t'es pas sérieux.
Je te jure. Alors qu'on l'appelle le KFC en anglais, donc le PFK en français. C'est une tradition qui est apparue dans les années 70. Il y avait eu une campagne de marketing de KFC, de Kentucky Fried Chicken, qui avait été faite dans les années 70, où on disait aux gens, on disait à la télévision, dans les revues et tout ça, on disait aux gens, mangez du poulet frit Kentucky pour Noël.
Okay.
Et ça, c'est resté ancré dans les mœurs. Sérieusement, c'est devenu à ce point populaire que pour le réveillon de Noël, les Japonais, à bien des places à travers le Japon, sont obligés de commander leur poulet frit Kentucky des mois à l'avance pour espérer avoir du poulet frit de disponible le soir du réveillon, tellement c'est une tradition qui est ancrée dans bon nombre de familles japonaises.
Voyons.
Noël, ouais. Alors, Noël, chez vous, chez Sébastien, on mange de la dinde. Ben au Japon, à Noël, on mange du KFC, du poulet frit Kentucky.
Ben, c'est pas parce que c'est pas bon, parce que moi, j'adore le poulet frit. Hey, mais ça me fait rire. On voit le poulet frit s'immiscer un peu partout, même dans l'émission Survivor. Je sais pas si t'as écouté Survivor Québec.
Non.
C'est une émission de gens qui sont pris sur une île aux Philippines, puis que là, ils font des épreuves. Puis, ils recevaient une fois de temps en temps un gros snack de poulet frit.
Pour vrai, hein? C'était commandité. Ah ouais, hein?
De PFK et tout ça. Puis moi, ça me faisait drôle, tu sais. Je sais pas comment considérer ça, mais bon, ça plaît, hein? Des gens, c'est sûr qu'ils n'ont pas mangé sur une île pendant un bon bout de temps, ça plaît. Mais pour tradition de Noël au Japon, ça, tu m'en apprends vraiment une bonne. Et que ce soit rendu si populaire, il faut commander un mois à l'avance. Je suis bouche bée.
Hey, ça fait un demi-siècle, là, depuis les années 70 à peu près, que ça existe. C'est une tradition qui était passée. Il avait réussi à rentrer ça dans le crâne du monde. Puis encore aujourd'hui, en 2024, là, les gens mangent du poulet frit épiceries pour Noël au Japon. Ils sont obligés de commander à l'avance parce qu'ils n'en auront pas et les stocks se vident.
Mais souvent, les gens mangent ça, du poulet frit, seulement une fois par année, justement, tu sais, comme dans des occasions spéciales. Alors, c'est certainement ça qui arrive. Les gens au Japon, la plupart ne doivent pas en manger le reste de l'année. Il faut faire attention à notre santé.
C'est ça. En Norvège, j'ai une croyance qui veut que les sorcières traversent le ciel sur des balais volants la veille de Noël.
Ah oui.
Alors ça c'est dans la tradition norvégienne et c'est une tradition qui date de plusieurs siècles, à l'époque où on était convaincu que les sorcières sortaient la nuit de Noël à la recherche de balais à enfourcher pour voler. Si bien que aujourd'hui, la légende est encore vivante chez les familles norvégiennes et savez ce qu'on est obligé de faire à Noël dans les familles norvégiennes? Chaque année au mois de décembre, on va cacher les balais. Et on cache les balais et les mops là, tu sais, pour mopper le plancher là. Alors on cache ça dans la maison, on pour pas se les faire voler par les sorcières de Noël c'est une tradition de Noël au mois de décembre en Norvège, on cache les balais, on cache les serpillères là ou les mops pour de façon à ce que les sorcières puissent pas les enfourcher.
Mais c'est quand même vraiment spécial. Puis moi je pensais qu'on associait des sorcières avec des balais à l'Halloween plus là, puis je trouve ça intéressant par contre, j'aime cette petite tradition de façon de penser de sorcières à Noël, je trouve ça magique. Ça amène encore un petit peu de magie de Noël.
Puis les sorcières, elles sont pas présentes qu'en Norvège parce qu'elles sont présentes également dans d'autres traditions. Les sorcières norvégiennes, on l'a dit, elles sont maléfiques. En fait, elles volent les balais. Ben la Befana, ou en fait Befana, B-E-F-A-N-A, la Befana, elle, c'est une sorcière gentille et elle distribue des cadeaux aux enfants. En Italie, ça c'est une tradition italienne, la Befana. La légende raconte que Befana aurait manqué sa chance de visiter l'enfant Jésus avec les trois rois mages le soir de sa naissance. Et pour se faire pardonner de ne pas avoir rendu visite en quelque sorte au petit Jésus qui était naissant. Alors depuis ce temps-là, elle cherche des enfants à qui offrir des cadeaux pour se faire pardonner dans une certaine mesure. Alors, donc, à l'Épiphanie, qui est une fête importante du christianisme, c'est ça, l'Épiphanie, c'est la fête des rois, là, tu sais, dans la nuit du 5 au 6 janvier, la sorcière Befana fait office, en quelque sorte, de second Père Noël en Italie et puis elle apporte des cadeaux aux petits-enfants pour se faire pardonner de ne pas avoir rendu visite à Jésus-Christ.
Okay, c'est spécial.
Ouais, c'est spécial. J'en ai trois autres rapidement. Au Guatemala, dans la nuit du 6 au 7 décembre, les familles guatémaltèques brûlent des effigies de Satan. Et alors, ils brûlent ça devant leur maison pour éloigner les mauvais esprits. Alors, on fait ça dans la nuit du 6 au 7 décembre. La tradition, on l'appelle la Quema del Diablo, j'espère que je le prononce correctement, et ça marque officiellement le début du temps des fêtes. Donc, on brûle des effigies du diable, de Satan, dans la nuit du 6 au 7 décembre, et puis de cette façon-là, on est capable de libérer la place, dans une certaine mesure, pour les festivités, et puis que le Père Noël puisse passer. Vous savez qu'ici, c'est l'hiver. Hein? Évidemment, dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Mais dans l'hémisphère sud, Noël, qu'on célèbre également, par exemple, en Australie, Noël, ça se passe en été.
Ben oui, c'est vrai.
Alors, c'est l'été en Australie. Alors, c'est pour ça qu'à Noël, de nombreux Australiens vont célébrer la fête en allant où?
À la plage. Fêter
à la plage. Ils vont nager, ils vont faire des pique-niques, ils vont jouer au volleyball. Donc, Noël, nous autres, on passe ça en dedans, tu sais, à couper de la bûche puis à manger de la dinde. Et puis, eux autres, ben, ils vont fêter ça sur la plage. Choc culturel, tu dis. Et puis, on va clore avec Caracas, au Venezuela, où les gens ont traditionnellement été, où ils le font encore également, ils vont à la messe de Noël en patin à roulette. Alors, ça, c'est la tradition.
Ouais. C'est donc bien plaisant.
C'est le fun, hein? Alors, tellement qu'à l'occasion de la Noche Buena, donc c'est-à-dire le réveillon de Noël, on va s'assurer d'interdire l'accès des rues du centre-ville de Caracas aux automobilistes dès la matinée, dès le commencement de la journée. On ferme les rues de façon à ce qu'on puisse aménager le parcours et que les patineurs à roulettes puissent se rendre à la messe de Noël en toute sécurité. Alors, c'est comme ça qu'on fête au Venezuela.
Hey, j'aime vraiment ça, là. Ça, ils ont des idées originales parfois.
Ils ont des bonnes idées, hein? On a à peu près un petit 3 minutes. As-tu des Noëls d'autrefois à nous raconter un petit peu?
Ben, c'est que je voulais qu'on parle un peu de la différence. Hein. C'est plus Noël qu'on avait. Moi, je les ai pas eus. Mais quand je parle aux gens un peu plus âgés, puis à mon père, puis tout ça, puis ils me rappelaient à quel point Noël a changé. Il y en a qui sont très nostalgiques des anciens Noëls. Tu sais, la fameuse messe de minuit où c'était très religieux, mais il y avait toute une ambiance derrière ça. La grande musique, les enfants participaient, tout le monde participait. Les enfants qui se couchaient tard pour assister à cette fameuse messe de minuit. Tu sais, aujourd'hui, on est carrément passé outre, là. Puis même que Noël se dissocie presque littéralement de la religion aujourd'hui, c'est rendu le Père Noël un marchand de cadeaux, là. Puis on fait plus référence vraiment à la naissance puis à tout ce qui est religieux. Il y en a encore, mais ça s'amenuise, hein. Les messes de minuit se vident d'année en année, même si il y en a quelques-unes qui fonctionnent bien. Hein, on a des messes de minuit qui sont encore, qui attirent encore beaucoup de gens. Mais les gens se sont dissociés beaucoup de la religion, et ça, c'est pas seulement concernant Noël, là, c'est concernant un peu tout le reste. Alors, les Noëls sont plus ce que c'était. Et puis, on n'avait pas non plus à l'époque là tous ces cadeaux. C'est du bourrage de cadeaux, parce que je sais que les gens, on me racontait que ça recevait une pomme à Noël.
Une pomme, une orange, une banane, là, tu sais, ouais, c'est ça, là.
Ben oui, puis les gens étaient super heureux, puis c'était vraiment les rencontres en famille. Mais ça, je veux rien enlever. Je crois qu'encore de nos jours, c'est très important dans le cœur des gens, les rencontres en famille. Hein, parce qu'on a vraiment ça. Il y en a beaucoup qui revoient leur famille, leurs cousins et cousines seulement à Noël. Et ça a été mon cas, là, pendant pas mal toute mon enfance. Les grandes réunions de famille, c'était Noël. Alors, c'est resté quelque chose de très important point de vue familial. On s'entend. Mais est-ce que tu aimerais, toi, vivre des Noëls d'autrefois, les vrais autrefois? Si on remontait aux années 30, 40, ça devait être... Je pense qu'il y avait une magie qui est dure à accoter aujourd'hui, qui est dure à égaler.
Tasser les meubles, hein, mettre de la musique, puis les gens dansaient, ça fêtait, ça sautait partout. Les enfants étaient d'un coin en train de jouer avec leurs jouets ou en leurs petites bébelles, puis tout ça, s'amusaient, puis les grands qui étaient là. Puis, ouais, ça a quelque chose de très certainement magique qu'on vit plus aujourd'hui, d'une part parce que les familles sont pas mal moins nombreuses qu'elles étaient.
Oui,
hein?
Exactement, ça c'est une des grandes différences.
Les familles sont souvent très éloignées les unes des autres, hein. Tu sais, à l'époque, souvent, ils restaient dans le village voisin ou restaient à la rigueur peut-être à une demi-heure, 45 minutes d'auto. Mais aujourd'hui, tu sais, quand t'as des gens, par exemple, qui sont dans la région d'Ottawa, il y en a d'autres qui sont partis pour travailler au Nouveau-Brunswick. Certains sont sur la côte ouest du pays. C'est un peu difficile, des fois, de rassembler toutes ces personnes-là. Puis je pense que ça peut être aussi, dans une certaine mesure, avec la marchandisation, comme tu disais tantôt, de la fête de Noël, la commercialisation qui est venue tout autour de ça. Le fait que les gens sont moins attachés à la religion catholique, là, le christianisme et tout ça, je pense que tout ça mis ensemble, ça a certainement contribué à changer l'esprit du temps des fêtes.
Oui.
Mais écoute, non.
Ben, tu sais, moi, j'aimerais beaucoup vivre ces moments-là. Puis quand on parle aux aînés aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont nostalgiques parce qu'ils trouvent que cette marchandisation, cette frénésie du commerce a un peu gâché Noël pour eux. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent que cette version. Hein. Il y en a beaucoup qui connaîtront jamais les fameuses messes de minuit qu'on avait autrefois. Mais là, toutes les gens qui courent dans la maison, puis là, faut dire aux enfants, faites attention par contre pour pas accrocher les chandelles dans le sapin.
Alors, c'est la conclusion de l'émission sur ces sages paroles. Faites attention aux chandelles dans le sapin pour pas foutre le feu dans la maison. Alors, plus sérieusement, on va vous souhaiter un heureux temps des fêtes, mesdames, messieurs, on sera de retour dans la première semaine entière de janvier ou à peu près, là, alors qu'on va se retrouver aux quatre coins de la francophonie canadienne pour une autre édition de Peut contenir des infos. Merci d'avoir été là. Sébastien, tu passes un heureux temps des fêtes?
Bien, toi aussi, et puis bonne année 2025 à toi, Simon, et à tous nos auditeurs, auditrices. On a bien hâte de vous retrouver déjà en 2025.
Salut, merci.